la journée, des centaines d'habitants de Bagnoles ou du Gard ont continué à ratisser la campagne. Lucas a disparu en emportant son sac à dos. Sa trace se perd très vite dans la garrigue. Fugue, ennui personnel, mauvaise rencontre. Les enquêteurs aujourd'hui n'excluent aucune hypothèse.
Bonsoir. 6 ans de silence. 6 ans que Lucas Tronche, 16 ans, a disparu du domicile familial de Bagnoles-sur-Cèze dans le Gard. C'était le 18 mars 2015, en fin d'après-midi, et rarement la disparition d'un adolescent n'aura été aussi brutale, aussi mystérieuse, aussi opaque. En dépit des moyens déployés, force est de constater qu'aucune information n'a permis à ce jour d'expliquer ce qui a pu arriver à Lucas, volatilisé en une poignée de minutes, sans bruit et sans témoin. Le scénario de sa disparition va être passé au peigne fin, encore et encore. Toutes les hypothèses envisagées, celles d'un enlèvement, d'un tueur en série, d'une fugue ou encore d'un suicide. Dans le cas de Lucas, aucune d'entre elles ne semble suffisamment convaincante pour expliquer cette longue absence. Dans l'affaire Lucas Tronche, les investigations cheminent ainsi depuis 6 ans dans une espèce de labyrinthe. Pas de porte de sortie et un retour toujours et encore au point de départ. La maison familiale, le lieu où tout a commencé. Ce soir, avec nos invités, dont les parents de Lucas qui luttent pour que cette affaire ne tombe pas dans l'oubli, nous allons revenir sur cette énigme criminelle, essayer de savoir si des pistes n'ont pas été négligées. Appeler aussi à tout témoignage qui pourrait, pourquoi pas, malgré le temps écoulé, apporter un détail capital.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, le mystère Lucas Tronche à la toute fin de l'hiver 2015. La disparition soudaine d'un adolescent tranquille dans une commune tout aussi tranquille du Gard. Ce mercredi 18 mars 2015, il est autour de 17h quand deux adolescents s'affairent dans la maison familiale. Valentin Tronche, 17 ans, et son frère cadet Lucas, 16 ans, doivent se rendre à leur entraînement de natation à la piscine de Laudun-l'Ardoise, la piscine de la Légion, au sud de Bagnoles-sur-Cèze. Dans cette petite ville de 22 000 habitants, la maison de la famille Tronche est en bordure d'agglomération, chemin de Sadurant. Les deux frères sont censés prendre le bus. L'arrêt est tout proche. Valentin quitte la maison le premier. Lucas est encore affairé sur son téléphone portable. Il demande à son frère de s'avancer. Il va le rejoindre tout de suite, dit-il. Il fermera la maison derrière lui. Rien d'intriguant dans tout cela. Il arrive que Lucas se rende avec sa trottinette jusqu'à l'arrêt de bus. Il n'aura donc pas de mal à vite rattraper Valentin. Ce dernier, toutefois, ne le voit pas apparaître. Une vingtaine de minutes plus tard, Lucas n'est pas dans le bus qui doit amener les frères jusqu'à la piscine. Valentin appelle son cadet sur son portable, mais tombe sur la messagerie. Lucas ne va pas se présenter à l'entraînement de natation. Il n'avait peut-être pas très envie de piscine ce jour-là. Aux alentours de 20h, la mère de Valentin et Lucas, la famille compte un troisième garçon, Arthur, 10 ans, est à l'arrêt de bus pour récupérer les adolescents de retour de leur entraînement. Mais seul Valentin est présent. Il explique que Lucas ne l'a jamais rejoint. Il est persuadé que celui-ci a préféré rester tranquillement dans sa chambre. Nathalie Tronche, la maman, et pour le moins surprise, cela fait 2 heures qu'elle est à la maison et ce qui est certain, c'est que Lucas, lui, ne s'y trouve pas. Aussitôt, l'inquiétude apparaît au sein du foyer. Lucas n'est pas du genre à disparaître ainsi, sans donner de ses nouvelles. Ce n'est pas un garçon difficile qui pourrait soudain faire n'importe quoi. Les parents s'aperçoivent que leur fils n'a pas emporté ses affaires de piscine. Il a pris son sac à dos, son téléphone portable, mais a curieusement laissé sur place son portefeuille, ses papiers et ses clés. La maison n'était d'ailleurs pas correctement fermée quand Nathalie est rentrée. Une baie vitrée était entrouverte. Lucas est parti avec sa doudoune rouge foncé, mais son portable ne répond pas. Les parents de Lucas, Nathalie et Eric, prévenus de cette absence au retour de son travail, pensent bien sûr à un accident. Mais aucun hôpital, aucun service d'urgence n'a accueilli l'adolescent. Ses amis, contactés les uns après les autres, ne l'ont pas vu et il ne les a pas appelés. Le commissariat de Bagnoles-sur-Cèze est prévenu vers 23h de cette disparition inexpliquée. Vu le profil limpide de l'adolescent, l'affaire est immédiatement prise au sérieux par les policiers. Bonsoir Nathalie et Eric Tronche.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Il est important de continuer à parler 6 ans après de cette histoire qui continue évidemment à vous persécuter, qui vous tenaille. Vous êtes les parents de Lucas. Je le disais, un trop long silence. Je suppose que depuis 6 ans, évidemment, vous n'avez pas oublié une seule seconde de cette journée du 18 mars 2015. J'ai envie de vous poser tout de suite déjà une première question. Comment allez-vous aujourd'hui après toutes ces années d'attente?
L'attente, elle est interminable. Donc, Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a changé depuis 6 ans, en fait. On est toujours dans l'attente de savoir qu'est-ce qui s'est passé, d'espérer toujours le retour de Lucas. Et moralement, c'est très difficile. C'est très difficile à vivre, de ne pas savoir où est son fils.
C'est très difficile, évidemment, on le comprend tout à fait. Vous attendez toujours, je sais pas moi, près du téléphone ou un signe ou un message, ça existe toujours encore aujourd'hui, 6 ans après?
Oui, moi, le téléphone, non, mais en tout cas, la boîte aux lettres. Moi, j'ai toujours l'espoir, chaque fois que j'ouvre la boîte aux lettres, de trouver un courrier de Lucas ou un témoignage, quelque chose qui nous amènera à lui.
Qu'est-ce qui vous a marqué, Nathalie et Éric Tronche, dans cette soirée, évidemment, bon, l'absence, évidemment, de votre fils, brutal, mais qu'est-ce qui n'allait pas dans cette disparition? Et Lucas, je l'ai dit brièvement, c'est pas un gamin difficile, c'est pas quelqu'un qui d'un seul coup va partir comme ça à l'aventure.
Ah oui, évidemment. Donc en fait, dès que Lucas, j'ai constaté qu'il n'était pas dans le bus, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Donc avec Valentin, on a songé immédiatement à un accident peut-être en trottinette en se rendant à l'arrêt de bus. On est allé à l'hôpital. Tout de suite, on a compris qu'il y avait quelque chose de très grave, parce que c'est vraiment, comme vous le dites, c'est pas de Lucas de disparaître. C'était un adolescent sérieux, appliqué. Donc vraiment, là, il n'y avait aucune explication, et c'était toute l'inquiétude, justement.
Ouais. Il n'avait
pas d'avoir d'explication.
Et c'est important de parler aussi de Lucas, de savoir qui il est. C'est pas un gamin, il est sérieux, vous le dites, à l'école. Il n'a jamais fugué, il vous a jamais posé de problème de ce type.
Non, il y avait eu le conseil de classe la semaine d'avant, il avait eu les félicitations. Il travaillait très bien, il voulait être vétérinaire depuis son enfance. Il avait arrêté de son propre chef de jouer à la PS3 parce qu'il trouvait que ça lui prenait trop de temps. Enfin, vraiment un enfant sérieux. Des fois, on lui disait, détends-toi, c'est pas très grave. Voilà. Donc, c'est l'inverse de ce qui est arrivé, quoi.
Oui, c'est ça. Il n'a pas du tout, et ça, c'est important, il faut quand même le signaler d'entrer dans cette émission, il n'a pas du tout le profil d'un fugueur. Il n'a pas du coup le profil du coup de tête, hein, c'est ça. Hein, c'est important de le dire.
Pas du tout. Pas du tout. On aurait aimé. Hein.
Bien sûr. Bien sûr.
Peut-être aimerait toujours. Mais...
Peut-être ça vous emmènerait une explication. Ça aiderait à avoir une explication.
Hein. Tout à fait. On a exploré aussi cette face-là de est-ce que ça pouvait correspondre à Lucas. Mais bon, après, comme vous l'avez dit, rien n'est écarté.
Bien sûr.
Et on va en tant que parent.
Bien sûr. Et on va y venir au cours de cette émission, on va y venir de voir s'il y a évidemment des aspects qui n'ont pas été traités, s'il reste encore des pistes à explorer. On va parler de tout ça, on a une heure pour en parler dans cette émission, et avec vous, les parents de Lucas ce soir. On a également en ligne notre invité dans l'heure du crime, Thierry Allard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Objectif Gare, qui est un site, c'est ça? C'est un média internet, Thierry?
Oui, c'est un média en ligne à la base qui fait aussi du papier depuis quelques mois maintenant aussi.
Voilà, et surtout ce qui nous intéresse chez vous, c'est votre expertise ce soir, puisque vous avez suivi cette affaire depuis le début, vous y avez consacré beaucoup de temps et d'énergie. Des mots très simples, Thierry Allard. Bagnols-sur-Cèze, c'est une ville tranquille. J'ai dit 220 000 habitants, mais pas du tout, c'est 22 000 habitants, je me suis trompé dans l'explication. Mais c'est une ville très... tranquille, il se passe pas énormément de choses spectaculaires dans ce coin du Gard.
Oui, effectivement, c'est une ville tranquille, c'est la troisième ville du département, c'est une ville qui est à l'écart des grandes métropoles dans lesquelles effectivement il se passe pas énormément de choses, en tout cas en termes de faits divers graves. C'est une ville, oui, qu'on peut dire vraiment tranquille, provinciale du Sud, quoi.
En quelques mots, Thierry, l'affaire, il faut le dire, elle est prise très au sérieux, très vite, hein, quasiment dans les 2 heures qui suivent le signalement de la disparition par les parents.
Oui, effectivement, parce qu'on a souvent des affaires d'adolescents qui disparaissent, mais ce sont des fugues, et assez rapidement, dans les profils qui sont diffusés par les autorités, les gendarmes ou les policiers, ces éléments-là figurent dedans, et donc on s'inquiète pas trop. Là, Lucas, c'était différent de suite, c'est-à-dire qu'on a très vite eu le sentiment que c'était pas une affaire comme les autres à ce niveau-là, et que Lucas avait pas vraiment le profil d'un fugueur, en fait.
Les recherches ne vont effectivement pas tarder pour tenter de retrouver l'adolescent. Il a peut-être pris un chemin différent ou a eu un accident. La famille préfère pour le moment ne pas trop songer à une mauvaise rencontre, même si ce scénario est dans tous les esprits. Dans l'heure suivant le signalement de la famille, une enquête en flagrance pour disparition inquiétante est ouverte par le commissariat de Bagnols-sur-Cèze. Les policiers se rendent sur tous les lieux que l'adolescent a l'habitude de fréquenter. Ils procèdent également à une série d'auditions qui pourraient permettre de livrer des informations. Les parents et les frères de Lucas sont questionnés, tout comme ses amis de classe. Rien ne ressort vraiment de ces face-à-face. Lucas apparaît comme un garçon qui ne semblait pas cultiver un quelconque secret. Un lycéen plutôt studieux et sérieux qui s'apprêtait à entrer en première scientifique. Certains témoignages attirent toutefois davantage l'attention. Le premier, dès le lendemain de la disparition, est celui d'une voisine du chemin de Sadurant, l'adresse de la famille Tronche. Cette femme était mercredi dans son jardin entre 17h et 17h30. Elle dit avoir vu une silhouette passer sur la route, celle d'un jeune garçon avec un sac à dos. Il marchait en direction des vignes. Elle ne peut pas affirmer qu'il s'agissait de Lucas qu'elle connaît. Une autre femme du quartier, chemin du Mât Jaune, indique, elle, avoir aperçu un jeune homme le jeudi 19 mars, lendemain de la disparition. Il portait une doudoune couleur bordeaux. Un chien de recherche de la gendarmerie est amené sur place. Il va effectivement marquer une trace, puis plus rien. Une semaine après la disparition, et alors qu'aucun indice n'a pu être détecté, le SRPJ de Montpellier est chargé de l'enquête. Les policiers sont rapidement épaulés par l'Office central de répression des violences faites aux personnes, l'OCRVP, des enquêteurs spécialisés dans les dossiers de disparition. Le 30 mars, le parquet de Nîmes ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. C'est désormais un juge qui va superviser les investigations. Les battues vont se multiplier dans le secteur, de plus en plus élargi, de Bagnols-sur-Cèze. Des policiers, des gendarmes, des pompiers, des agents de l'Office national des forêts sont mobilisés pour participer à ces ratissages. Une quarantaine de légionnaires du 1er régiment étranger de génie de Loudun-l'Ardoise sont sur le terrain. Patrouilles sur les chemins, points d'eau sondés. L'objectif est d'aller dans des zones encore inexplorées, confie au journal Midi Libre le lieutenant Sylvain, l'officier de la Légion qui dirige les recherches. Le lundi 23 mars, après 3 jours de battue, des bénévoles, dont Rachid, un ami de la famille, aperçoivent une silhouette à l'orée du bois sur les hauteurs de Saint-Gervais. L'individu n'a pas la taille d'un adulte. Il est sur un piton rocheux et observe des travailleurs qui s'affairent dans les vignes en contrebas. Le temps que les bénévoles s'approchent, la silhouette a disparu. Ici encore, un chien de recherche va marquer une piste avant de renoncer. Nathalie et Éric Tronche, vous êtes les parents de Lucas et ce soir nos invités dans l'heure du crime. Que pensez de ces premiers témoignages qui apparaissent très vite et notamment ces femmes qui croient avoir vu votre fils? Qu'est-ce qu'on peut en penser avec le recul aujourd'hui?
Ben, nous, on pense que c'est probable qu'elles aient vu Lucas qui est parti de la maison pour aller, on ne sait pas où, mais que ce soit le mercredi vers 17h15 ou le lendemain, les descriptions qu'elles font de la veste de Lucas bien pensé que c'était lui qui était présent.
Oui, oui, parce que Éric Tronche
a... On peut y croire.
Oui, ben, évidemment, vous y croyez. Mais d'autant plus qu'à l'époque, la description de l'habillement de Lucas, etc., n'est pas tout à fait précise. Donc ces femmes-là n'inventent pas quoi que ce soit.
Oui, les informations sur sa tenue vestimentaire n'ont pas paru, ni pas encore dans la presse, et pas, on ne l'a pas ébruité. Voilà.
Oui,
donc
c'est ça.
On pense que Lucas a vraiment été vu, et puis... Puis il y a une dame aussi qui vend des vêtements, qui nous décrit bien les vêtements de Lucas.
Oui, c'est
donc
ça.
On y croit.
Oui, c'est tout à fait troublant, mais ça voudrait dire quoi, Éric Tronche ou Nathalie, les parents, ça voudrait dire quoi que finalement, votre fils est parti comme ça, presque en laissant la porte ouverte quasiment, avec très peu d'affaires, mais... Très vite, il a eu peut-être quelqu'un qui l'a appelé ou il avait un rendez-vous. Ça peut être imaginé comme
oui.
ça.
Oui, on pourrait imaginer un scénario où Lucas aurait un rendez-vous, où il devait rencontrer quelqu'un, ou alors qu'il a surpris quelque chose justement à ce moment-là. Il est peut-être allé régler un problème, je ne sais pas du tout. Et après, peut-être qu'on aurait pu lui poser des menaces en disant « t'as pas intérêt à rentrer chez toi, on va faire mal à ton petit frère ». C'est des choses que, c'est sûr, ça peut paraître complètement dingue, mais on essaie de trouver des explications pourquoi Lucas aurait pu être vu dans le secteur de la maison sans revenir, quoi.
Mmh. Oui. Parce que c'est très intéressant.
C'est compliqué. Hein.
C'est très intéressant ce que vous dites, Nathalie Tronche. Ça voudrait dire qu'il aurait pu effectivement apercevoir quelque chose d'anormal à l'extérieur. Il aurait pu sortir et puis être pris à partie par une ou plusieurs personnes oui. à ce moment-là. C'est une éventualité.
Oui. Moi, pour moi, c'est quelque chose auquel je crois. Et j'irai plus loin même. Je me dis qu'il a surpris une situation très délicate. On l'a menacé, on a menacé la famille, et Lucas, pour nous protéger, aurait pu avoir ce comportement de ne pas revenir. Et moi, je vais plus loin, c'est que je me dis qu'il est parti, du coup, il s'est éloigné, et malheureusement, il aurait fait une mauvaise rencontre fortuite après, quoi. Mmh. Et ça, et cette situation, on n'a aucune prise là-dessus, parce que.
Bien sûr.
Voilà, c'est pas l'enquête autour, à moins qu'on arrive à trouver, il faudrait vraiment arriver à trouver les personnes qui l'auraient menacé. Mais
bien sûr.
Si c'est une rencontre fortuite après, c'est difficile.
Et bien sûr, c'est d'autant plus difficile qu'il n'y a pas de témoin direct, hein, je le précise, de la disparition hein, de Lucas. Il n'y a personne, vraiment, ne l'a vu partir dans une voiture ou quoi que ce soit. Thierry Allard, journaliste à Objectif Gare. Alors, ce sont des recherches très importantes qui sont déclenchées à l'époque. Il y a plusieurs témoignages. Il y a aussi le témoignage d'un motard, ce mercredi 25 mars. Il dit, lui, avoir vu marcher un garçon qui ressemble à s'y méprendre à Lucas. C'est exact ?
Oui, c'est exact. Et lui aussi, il va faire une description de l'adolescent qui décrit comme étant Lucas, qui est assez précise, notamment au niveau vestimentaire, avec là aussi des éléments qui n'avaient pas été donnés auparavant dans la presse.
Thierry Allard, un mot sur les chiens, parce que moi j'étais intrigué remontant le dossier, si vous voulez, en examinant toutes les pièces. Il y a deux chiens tout de même qui marquent un arrêt sur des pistes possibles. Ça veut dire quoi ?
Et ça veut dire que potentiellement Lucas est passé par là, mais ensuite, vu que ces pistes n'ont pas donné grand-chose de probant, ça s'arrête un peu là, malheureusement.
Encore un petit mot, Thierry Allard. Décrivez-nous un petit peu cette zone de recherche qui est très vaste. C'est boisé, ce sont des vignes. Comment ça se présente ?
Alors oui, il y a des vignes et du bois. C'est les deux à la fois. Et au niveau des bois qui sont aux alentours de la maison des Tronches sur le massif qui est plutôt du côté Saint-Nazaire, Saint-Gervais, on est sur des bois qui sont extrêmement denses. Hein. C'est des zones de chasse avec des DFCI qui eux sont larges mais qui sont relativement rares. Et ensuite, on est vraiment sur des tout petits sentiers et des zones extrêmement denses.
Et difficile d'accès.
Ah oui, très clairement. C'est très difficile d'accès et très escarpé.
Toutes les hypothèses sont ouvertes pour expliquer la disparition de Lucas Tronche. En l'absence de témoignages capitaux ou d'indices, les policiers ont devant eux un champ d'investigation très large. Ils ne peuvent pas se permettre de faire la moindre impasse. Tous les témoignages, même les plus fantaisistes, se doivent d'être examinés. On a vu Lucas en France, bien sûr, mais aussi en Espagne ou en Italie. Autant de déclarations qui ne donnent hélas aucune indication précise sur ce qui aurait pu arriver au jeune garçon. La mobilisation bat son plein. Au total, quelques 1500 personnes ont participé aux recherches dans la région. La téléphonie et notamment la messagerie instantanée Snapchat utilisée par l'adolescent sont passées au crible. Pour sonder ses conversations sur ce réseau social, la juge d'instruction va même envoyer des réquisitions aux États-Unis. Cet examen ne va finalement rien donner d'intéressant. La seule conversation de Lucas avec une amie remonte à la veille de la disparition. Le jour où il s'évapore, il y a bien un échange de données sur son téléphone, mais les experts ne peuvent pas en préciser la teneur. 8 mois après la disparition, Lucas Tronche est le mineur le plus recherché de France. Son visage, dans un spot publicitaire de 10 secondes, s'affiche notamment dans 527 stations-service. Il va être vu pendant 4 semaines par 9 millions d'automobilistes. Le portrait est également affiché dans les supermarchés, dans les gares, sur les aires d'autoroute et dans les autobus. Les parents de Lucas ne perdent pas espoir, contraints d'attendre les nouvelles toujours possibles, même si certaines informations jouent avec leurs nerfs déjà fortement éprouvés. Dès le mois d'octobre 2016, un mystérieux corbeau s'est ainsi manifesté en écrivant à la mairie de Bagnols-sur-Cèze. Des messages assez courts indiquant que Lucas va bien, qu'il ne risque rien et qu'il est en bonne santé. Au fil des semaines, le ton du correspondant change. Celui-ci met en doute la qualité de l'enquête, critiquant son côté spectaculaire et il laisse entendre que Lucas refuse désormais de revoir ses parents. Au total, 11 courriers vont être ainsi envoyés depuis le centre de tri de Valence, dans la Drôme. Les enquêteurs vont perdre beaucoup de temps et d'énergie à localiser le corbeau. Pris en flagrant délit après un an d'investigation, c'est un homme de 57 ans, employé dans un supermarché de Valence. Sans antécédent judiciaire, il sera jugé et condamné à 1 an de prison ferme. Thierry Allard, journaliste à Objectif Gare, est ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime. J'ai envie que vous nous parliez, Thierry, s'il vous plaît, de l'examen de la téléphonie concernant Lucas. Parce que là, c'est important. En général, quand quelqu'un part avec son téléphone, il y a un moyen de tracer ou d'avoir des informations. Et là, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, en fait, le téléphone de Lucas, ce qu'on sait, c'est qu'il est éteint à 17h14, le jour de la disparition. Mmh. Et que derrière, il va être appelé 2 fois par Valentin, qui devait sans doute s'inquiéter du fait qu'il ne le voyait pas arriver au car. Mmh. Il l'appelle à 17h30 et à 17h34, et là, ces deux appels tombent directement sur messagerie. Et depuis, le téléphone de Lucas n'a jamais été rallumé et n'a même jamais été retrouvé, en fait.
Il ne s'est jamais réactivé, il y a pas, on ne sait pas du tout, il n'y a pas de traçage, il n'y a pas de bornage, comme on dit, comme disent les policiers, qui permet de savoir où est passé ce téléphone.
Ah non, pas du tout.
C'est ça. Donc la téléphonie ne donne rien, y compris les messageries, hein, c'est important de le souligner, puisque j'ai dit que Lucas avait pour habitude d'utiliser Snapchat, qui est beaucoup utilisé par les adolescents pour converser entre eux. Cette messagerie, l'examen de la messagerie, etc., et des discussions qui ont pu être tenues, là aussi, c'est stérile.
Oui, a priori, ça n'a rien donné, sachant qu'en plus, Lucas n'était plus sur Facebook parce qu'il avait eu quelques petites déboires dessus quelques mois avant, donc il n'y était plus. A priori, il n'utilisait que Snapchat.
Des déboires de quel type ? On le sait aujourd'hui ?
Ouais, on a parlé à l'époque d'une usurpation d'identité sur Facebook. Enfin, c'est quelque chose d'assez nébuleux que j'ai jamais pu creuser plus que ça, mais en tout cas, ça l'avait vraiment refroidi et il avait arrêté de l'utiliser.
Nathalie et Eric Tronche, les parents de Lucas, vous avez été surpris par le fait qu'on ne trouve rien sur ce téléphone, qu'il n'y ait pas de traçage possible ?
Ben, en fait, le seul traçage possible avec un téléphone, c'est qu'on voit à quel endroit il a émis au moment où il est arrêté. Et donc, en fait, il a été arrêté à la maison, sûrement, puisque ça correspond à l'horaire quand Valentin venait de partir. Et donc, le bornage, c'est les 3 pylônes, 3 relais qui sont dans notre région. Et après, il a jamais été rallumé. Il y a une surveillance qui est faite sur le numéro d'IMEI pour vérifier que si jamais le téléphone est réactivé, voilà, il y a une veille qui est en cours. Mais malheureusement, ça n'a jamais été le cas.
Oui.
On espère toujours qu'il nous appelle, puisque On paye toujours l'abonnement de son téléphone et on espère qu'il va nous appeler aussi.
Ah, ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que ce téléphone, finalement, n'a jamais été retrouvé. Vous continuez à payer l'abonnement parce qu'effectivement, on ne sait jamais. Et je comprends très bien votre attitude. Ouais. C'est tout à fait normal que vous attendiez un message et ainsi. Est-ce qu'il avait...
C'est très difficile de se dire qu'on coupe une ligne.
Complètement. Et on est bien d'accord. Et vous avez bien raison de rester, de laisser cette ligne ouverte et de continuer à payer un abonnement. C'est tout à fait à votre honneur et on vous comprend tout à fait. Est-ce qu'il avait l'habitude, Lucas, de couper son téléphone comme ça?
Parfois, il mettait en mode avion pour économiser la batterie. Hein, ça, les jeunes, ils le font.
Sûr.
Il pouvait écouter de la musique. A priori, il aurait pris ses écouteurs. Donc, on peut supposer qu'il est parti avec son téléphone. Mais bon, je pense qu'il y a eu une volonté de couper. Parce que moi, c'est vrai que souvent, je l'ai localisé. Enfin, ils le savaient, les enfants, pour vérifier qu'ils étaient bien à la piscine. Tout ça, j'avais l'habitude d'utiliser l'application localisée. Et donc là, il y a vraiment une volonté de s'absenter pendant un moment, au moins.
Bien sûr. Alors, évidemment...
Et je voudrais préciser juste quelque chose sur
Facebook.
Allez-y, Nathalie. En fait, pardon, il n'a jamais été sur Facebook, Lucas. C'est simplement quand il était au collège, on s'était rendu compte qu'il y avait un compte Facebook à son nom et quelqu'un du collège faisait croire que c'était lui, mais c'était rien de méchant, c'était
d'accord.
Sur des trucs de foot. Mais Lucas, ça ne lui avait pas plu et du coup, il avait dit, moi, je ne le mettrai jamais sur Facebook.
Donc, d'accord, voilà. Donc ça, mais c'était anodin. Je veux dire, il n'y avait pas une volonté de
voilà,
le nuire...
Oui, absolument, rien de grave.
Ou etc. Donc, je suppose qu'à l'époque, évidemment, vous êtes dans l'attente. Et d'ailleurs, comme aujourd'hui, hélas, dans l'attente de toutes les pistes qui peuvent se présenter, j'ai parlé de ce fameux corbeau qui, avec cynisme, est entré dans votre existence et qui vous a fait souffrir. Vous avez très mal vécu cet épisode, tous les deux, Nathalie et Eric Tronche.
Mais en fait, au début... On a eu beaucoup d'espoir et donc on s'est dit jusque de novembre jusqu'au mois de février, mars, que à un moment donné on allait avoir Lucas et on allait le retrouver. Et en fait, cette déception en juillet quand il a avoué aux policiers qu'il avait tout inventé, ça a été vraiment une déception phénoménale parce que Lucas, on essayait de le toucher et là il redisparaissait de nouveau.
C'est terrifiant, c'est-à-dire que c'est une vraie blessure, ça. C'est rajouter du malheur au malheur, finalement.
Tout à fait. Ça a été très dur parce qu'en plus, si vous voulez, on avait tellement d'espoir là-dessus, c'est que quand on a su que c'était pas ça, on a eu l'impression qu'on retombait à zéro. C'est vraiment ce que dit Eric, quoi. Que Lucas disparaissait de nouveau, que l'enquête, tout avait été occulté par ça depuis des mois. Et on a, voilà, ça a été très difficile. Et les enquêteurs ont été formidables. Ils nous ont, voilà, réencouragés. Ils ont dit, mais voilà, on continue. Et heureusement qu'ils sont là pour soutenir et pour continuer à faire des actions.
Des policiers, et notamment l'OCRVP, qui ne vont effectivement jamais cesser de croiser leurs fichiers, d'effectuer des rapprochements avec de possibles agresseurs ou même des meurtriers en série. Vérification fastidieuse, mais absolument indispensable. Dès le début, les investigations se sont intéressées aux maniaques sexuels et délinquants en tout genre, des personnes susceptibles d'avoir agressé et enlevé Lucas Tronche. Au cours de l'année suivant la disparition, deux hommes sont placés en garde à vue puis relâchés. Fin 2016, un appel à témoins est lancé pour identifier un homme vu à l'époque de la disparition dans le quartier où vit la famille Tronche. Un profil précis, un individu mince et chauve, d'une quarantaine d'années, tatoué sur les deux avant-bras, circulant dans une petite voiture du genre Citroën Visa ou Fiat Panda, immatriculée dans l'Hérault. Il faudra 2 ans pour identifier ce potentiel suspect. Il sera placé en garde à vue, longuement interrogé, puis mis hors de cause. À la même époque, janvier 2018, la piste de Nordal-Lelandais fait son apparition. Une connexion est effectivement établie entre Lelandais et Bagnols-sur-Cèze. Le meurtrier présumé du caporal Arthur Noyer et de la petite Maëlys a effectivement un cousin proche dans cette ville. Après 1 mois de vérification, il s'avère que Nordal-Lelandais était en Isère au moment où Lucas a disparu. Le 1er mars 2016, soit 1 an après la disparition, Un autre lycéen de la région, Antoine Zoya, élève en première S au lycée Albert Camus de Nîmes, s'évapore à son tour. L'affaire est troublante, les deux garçons ont des profils quasi similaires, tous deux ont disparu de la circulation en quelques minutes. Les enquêteurs demeurent toutefois prudents. Le procureur de Nîmes, Éric Morel, se refuse à faire un rapprochement. « Je n'ai pas une voiture, un indice, un numéro de téléphone qui soit commun entre ces deux dossiers. Pas le moindre élément de connexité », déclare le magistrat. « Si on rentre dans cette hypothèse, ça veut dire qu'il y a un prédateur. Or, je n'ai aucun élément pour diffuser cette hypothèse dans l'opinion publique. » L'histoire va tristement donner raison au procureur. Antoine Zoya est retrouvé pendu 2 ans plus tard dans un coin peu accessible, une forêt de Clarensac dans le Gard. Son corps était là depuis sa disparition. L'hypothèse d'un suicide apparaîtra alors comme la plus vraisemblable. Thierry Allard, journaliste à Objectif Gard, les fichiers des délinquants sexuels sont examinés. C'est d'ailleurs l'usage dans ce genre d'affaires, évidemment, on se penche sur ces dossiers. Le cas Lucas Tronche va même être passé en revue par la cellule Ariane de la gendarmerie, mise en place dans le cadre de l'enquête Nordal-Lelandais. Là, tout est fait, il y a plusieurs profils qui vont se dessiner, de possibles agresseurs, j'ai envie de dire.
Oui, effectivement, on s'aperçoit que même dans une petite ville comme Bagnoles, eh ben, des criminels, en tout cas enregistrés sur ce fichier, il y en a un certain nombre. Mmh. Et donc, effectivement, ce sont des pistes que les enquêteurs vont fouiller, vont creuser pendant des mois, notamment des pistes de certains marginaux.
Alors, il y a des marginaux, oui, bien sûr. Ils vont être entendus, toutes ces personnes vont être entendues, placées parfois même en garde à vue.
Oui, il va y avoir beaucoup de personnes entendues. Il va y avoir de longues investigations menées par les enquêteurs avec ces personnes-là, effectivement. Mmh.
Nathalie et Éric Tronche, vous pensez que cette piste de l'agresseur sexuel, il faut l'appeler comme ça, c'est une piste qui tient la route, comme on dit ?
Aujourd'hui, on peut écarter aucune piste. Donc, comme dit Thierry, on se rend compte que sur ces listes du FIGES, c'est impressionnant quand même le nombre de personnes.
Ça, c'est le fameux fichier. Le fameux fichier.
Dans Bagnoles, voilà, dans Bagnoles et dans les villages alentours. Donc, on peut rien écarter. Voilà, évidemment, malheureusement, c'est pas une piste qui est...
qu'il faut éliminer.
C'est pas notre piste préférée, bien sûr.
Ouais, bien sûr, mais c'est évidemment pas une piste préférée, comme vous dites, en tout cas, effectivement. Mais on ne peut pas, comme vous le dites très bien, on ne peut pas l'éliminer comme on peut éliminer en ce moment aucune piste. Il faut encore le répéter. Tout est ouvert. Alors, il y a eu l'affaire, je l'ai raconté brièvement, Antoine Zoya. Alors c'est une histoire qui est troublante effectivement parce qu'elle ressemble beaucoup à la disparition de Lucas, notamment sans doute dans les premières heures. Qu'on soit clair, Nathalie et Éric Tronche, les deux garçons ne se connaissaient pas à l'époque.
Ah non, non, pas du tout. Non, on ne connaît pas du tout la famille d'Antoine et personne ne se connaissait, non.
Et ça,
c'est pas à côté, hein. C'est vers Nîmes, donc c'est à 1 heure de route d'ici. Hein.
Oui. À l'époque, vous êtes troublé tout de même par ce fait particulier ?
Oui, moi je suis très troublé. Et puis je me dis quand même qu'il y a quand même une similitude d'âge, une similitude de profil un petit peu. Ils sont tous les deux bons élèves et on cherche à trouver quelque chose qui relance, nous, un petit peu l'enquête, qui pourrait faire que notre enquête rebondisse. Et donc, on se dit, quand même, il y a quelque chose, voilà, malheureusement, jusqu'à trouver Antoine.
Bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Thierry Allard, journaliste à Objectif Gard, vous connaissez bien cette enquête, vous avez beaucoup travaillé dessus. Quel est le sentiment ? Alors, bien sûr, il n'y a pas de choses très affirmées, puisque toutes les pistes, encore une fois, sont ouvertes, mais quel est le sentiment qui prévaut à ce moment-là chez les enquêteurs ? Ils pensent plutôt à quelqu'un qui aurait pu faire du mal à Lucas, ou bien ils penchent plutôt pour une fugue ? Qu'est-ce qui se dessine ?
En fait, c'est assez compliqué de répondre à cette question, puisque je pense qu'il y a eu plusieurs temps. C'est vrai que nous, au début, à la presse, la police nous disait que c'était très probablement une fugue et qu'il serait rentré au week-end, puisqu'il avait disparu le mercredi. Mais on a vu très vite quand même que ça a changé et qu'ils ont très vite commencé à s'inquiéter aussi. Donc c'est compliqué aujourd'hui de savoir un peu dans quel état d'esprit ils sont. En tout cas, je pense que aujourd'hui, on l'a dit plusieurs fois, aucune piste ne peut être refermée. Et malheureusement, je pense que depuis 6 ans, on en est un peu au même point là-dessus. Quoi.
C'est-à-dire que ça n'a pas progressé, selon vous. Hein. On fait du surplace, mais avec toujours l'espoir qu'une de ces pistes, finalement, se dessine un peu plus nettement, c'est ça ?
Ouais, alors c'est compliqué de dire qu'on fait du surplace avec toutes les investigations qui sont menées, mais effectivement, force est de constater qu'encore aujourd'hui, on n'arrive pas à exclure de pistes fermement, quoi. Alors après, il y a peut-être cette histoire de l'homme tatoué qu'on a beaucoup cherché, qu'on a trouvé, puis qui a été mis hors de cause. Mais c'est vrai que les pistes sont assez nombreuses à la base, encore que il y a très peu d'éléments. Donc en fait, c'est que des conjectures. Et aujourd'hui, elles sont pratiquement toujours aussi nombreuses 6 ans plus tard.
Thierry Allard, cet homme tatoué dont vous parlez, que j'ai un petit peu décrit rapidement dans le récit, lui, il est définitivement hors de cause aujourd'hui ?
Bah en tout cas, il a été entendu, enfin il a été retrouvé déjà, ça a été long, il a été entendu et a priori ça n'a pas donné de suite au niveau des enquêteurs. Donc moi je considère, enfin après peut-être que c'est un peu tôt, mais en tout cas qu'il n'est plus mis en cause aujourd'hui. Après tout, il était recherché en tant que témoin. Donc,
bien sûr. Malgré une enquête difficile et infructueuse, la justice n'est pas sur le point de refermer le dossier. Tout au contraire, le dossier de la disparition de Lucas va être repris à son point de départ, au cas où un détail infime amènerait une explication. 4 ans, jour pour jour, après la disparition de Lucas, le 15 mars 2019, la nouvelle juge d'instruction chargée du dossier décide de retourner là où tout a commencé, le domicile de la famille Tronche, à Bagnols-sur-Cèze. Déplacement de justice dans ce quartier pavillonnaire posé au milieu des vignes qui provoque aussitôt interrogations et spéculations. S'agit-il d'un rebondissement ? Les enquêteurs auraient-ils trouvé un nouvel élément ? Rien de tout cela. La nouvelle juge veut en fait se faire une idée la plus précise possible du dossier dont elle vient d'hériter. Elle passe ainsi la journée dans la maison du chemin de Sadurant, procédant à une reconstitution des faits. Il s'agit de vérifications programmées de longue date et qui témoignent que 4 ans après, ce dossier est toujours prioritaire pour l'institution judiciaire, martèle alors le procureur de Nîmes dans un communiqué. Toutes ces années, la police judiciaire, avec l'aide des gendarmes, a méthodiquement fermé les portes, pour employer le jargon des enquêteurs, éliminé des pistes pour ne conserver que les hypothèses dignes de ce nom. Mais force est de constater que 6 ans après les faits, aucune ne prévaut vraiment. L'association Retrouvons Lucas, créée par des proches de Nathalie et Eric Tronche, continue toujours à diffuser la photo de Lucas et à formuler des appels à témoins. Personne n'a envie d'abandonner cette recherche de vérité. C'est une disparition, ça n'est pas un deuil, indique la mère de Lucas. On alterne entre espoir et désespoir au quotidien. On ne peut pas évacuer le fait que Lucas soit quelque part retenu. On ne peut pas l'oublier non plus. Des parents qui aujourd'hui attendent encore un signe. Nathalie et Eric Tronche, vous êtes justement en ligne ce soir dans l'heure du crime. Vous nous l'avez déjà dit un petit peu, vous avez conservé l'abonnement téléphonique de votre fils. Vous attendez toujours un signe aujourd'hui, 6 ans après.
Oui. On l'attend. Alors, il y a des gens qui doivent se dire qu'on est fou, mais malheureusement, non, on est des parents et voilà, notre enfant nous manque et on a ce fol espoir qu'il soit quelque part.
C'est tout à fait.
Un jour, il nous téléphone, il nous contacte.
Et c'est tout à fait légitime de penser ce que vous pensez. Vous n'êtes pas fou, je vous rassure tout de suite. Toute votre existence, Nathalie et Eric Tronche, a complètement changé dans cette histoire. C'est presque une nouvelle vie qui a émergé.
Ah oui. Parfois, on dit qu'on a une vie parallèle à la vie qu'on aurait dû avoir si Lucas était parmi nous. C'est sûr que voilà, on était une famille avec 3 enfants. Et du jour au lendemain, voilà, il y en a un qui a disparu, on ne sait pas où il est, et voilà, on a ce poids sur les épaules. Et chaque jour, il nous manque. C'est très difficile.
Toute votre existence, encore aujourd'hui, hein, je parle 6 ans après, toute votre existence tourne autour de Lucas. Mais il faut penser aussi aux autres, à vos 2 autres fils.
Ah oui, tout à fait. Non, mais on essaie bien évidemment d'avoir la vie la plus normale possible. Mais si vous voulez, on a toujours, on a une portion de notre cerveau qui est, qui est pour Lucas, où on a régulièrement les enquêteurs, Mais on essaye autant que possible de préserver nos deux autres enfants, qu'ils aient une vie la plus normale possible, avec un développement personnel, qu'ils soient heureux. Heureusement qu'ils sont là.
Bien sûr. Et vous parlez des enquêteurs, et c'est important de le signaler, notamment les hommes de l'OCRVP, qui vraiment aimeraient mettre un point d'honneur à boucler cette enquête. Ils sont très impliqués dans ces investigations. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les enquêteurs? Et vous les avez de manière assez... J'allais dire, c'est des amis. Non, c'est pas des amis, mais enfin, vous discutez avec eux de manière régulière. Ils vous donnent des informations.
Oui. C'est vrai qu'on... Oui, on discute régulièrement avec eux. Alors, moins souvent, évidemment, qu'au début de l'enquête, mais je les ai eus encore cet après-midi. L'équipe de l'OCRVP doit descendre de Paris bientôt. Voilà, alors ils sont associés, évidemment, à la PJ de Montpellier. Donc, l'OCRVP supervise un petit peu, et les actions sur le terrain, c'est souvent la PJ qui se déplace pour faire les auditions. Et voilà, c'est des gens formidables. Voilà, nous, on a découvert tout un monde. La police, vraiment,
C'est des soutiens très forts. Voilà. On les remercie avec nos amis, l'association.
Oui, c'est...
Heureusement qu'on a ses soutiens.
C'est ça, c'est-à-dire...
Puis le groupe Facebook, enfin, vraiment, on a eu pour Lucas vraiment énormément de gens qui nous ont montré, qui ont voulu nous aider.
Et
la diffusion de la photo, c'est vraiment très important. On nous encourage à diffuser. Et on vous remercie aussi.
Mais évidemment, vous n'avez pas à nous remercier. On est là pour vous, évidemment, pour vous aider. Si ça pouvait faire avancer l'enquête ou faire un petit déclic chez quelqu'un. D'ailleurs, vous pouvez le dire, Nathalie Éric Tronche. Hein, on peut lancer ce soir un appel au témoignage. Hein, il ne faut pas s'en priver. Vous êtes sur RTL à une heure de grande écoute. Une émission qui est très écoutée avec beaucoup d'auditeurs fidèles. Allez-y.
Il y a toujours il y a le numéro de la SRPJ qui est le 04 67 99 35 97. Et il y a aussi une ligne qu'on a mise en place par l'association. C'est un numéro 06 48 36 05 01.
Répétez-le,
c'est
celui-là, Nathalie.
06 48 36 05 01. 01.
C'est noté.
Les coordonnées, elles sont sur le site de l'association retrouvons-lucas.fr.
Et on mettra évidemment...
Donc,
Allez-y.
Voilà, dans notre recherche de témoignages, on invite les gens à appeler s'ils se souviennent de quelque chose. Et puis, pour ceux qui veulent participer, à demander les autocollants s'ils veulent.
Bien sûr.
On leur enverra des autocollants pour mettre sur la voiture.
Oui,
pour que les gens, ils sachent, ils connaissent le visage de Lucas.
Parce qu'il faut se dire qu'il y a quelque part, il y a quelqu'un qui sait. Voilà. Et cette personne... Elle n'est pas au courant que Lucas a disparu. Voilà.
Et c'est très important ce que vous dites, parce qu'effectivement, dans ces affaires de disparition, il y a toujours quelqu'un qui sait ou qui a vu quelque chose, et c'est cette personne qui nous manque pour boucler ce puzzle tragique. Thierry Allard, encore un petit mot, journaliste à Objectif Gare. Je l'ai dit, les enquêteurs ont fermé beaucoup de portes. Est-ce qu'il y en a certaines qui sont abandonnées, ou bien encore une fois, toutes les pistes sont possibles dans cette affaire?
Alors je crois que, mis à part la piste familiale qui a été creusée, même si c'est très difficile dans les circonstances de la disparition de Lucas, mis à part cette piste-là, à peu près toutes les autres restent encore aujourd'hui ouvertes et sont des champs d'exploitation pour les enquêteurs.
Merci beaucoup Thierry Allard, journaliste à Objectif Gare. Puis un très très grand merci à Nathalie et Éric Tronche qui étaient ce soir nos invités dans l'heure du crime, avec évidemment l'énigme Lucas Tronche, 6 ans de mystère, et espérons qu'un indice, un témoignage, même infime, puisse un jour lever le voile sur cette affaire. RTL est très heureux de s'associer ce soir à cette recherche. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir une nouvelle fois ensemble cette heure du crime.